Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvot traite cette fois-ci de impôts et dettes.
Impôts et fisc dans le même panier. En matière de dictionnaire, tout commence vraiment mal pour l'impôt. Ainsi, en 1680, après une définition limitée aux synonymes de l'impôt, l'imposition, nous sont assénés sans ménagement trois exemples bien lourds. Charger le peuple de gros impôts. Accabler le peuple d'impôts. Mettre des impôts sur le peuple. Le lexicographe Richelet prend-il alors parti pour le peuple ou le désigne-t-il au contraire avec insistance pour mieux y échapper? L'impôt, c'est étymologiquement ce qui est obligatoire, imposé, en droite ligne, du latin impositum. Mais où déposer l'impôt? Aujourd'hui dans une boîte aux lettres, en fer, ou en plastique, ou encore électronique. Les Romains avaient choisi le fiscus, c'est-à-dire un élégant panier de joncs ou d'osier. De là vient bien sûr le fisc, qui ne manque donc ni de poésie, ni de quartier de noblesse étymologique. C'est de fait en 1278 que sera attesté dans notre langue le premier procureur de fisc, de panier. L'impôt se payait alors, soit en nature, les corvées par exemple, soit en espèces sonnantes et trébuchantes. Par exemple, l'impôt sur le sel, la gabelle, qui, soit dit en passant, vient du mot arabe « gabala », désignant l'impôt, une réalité décidément universelle. Au XIXe siècle, le service militaire redouté pour son tribut de sang devint, avec Balzac qui en popularisa la formule, l'impôt du sang. Et c'est le même Balzac, criblé de dettes et sans rancune, qui évoquera presque avec tendresse un nouvel horizon pour le fisc, prompt à taxer le nombre de fenêtres de nos logis. Quand on pense aux immenses services que rendent les fenêtres aux amoureux, il semble assez naturel d'en faire l'objet d'une contribution, déclare-t-il avec indulgence dans Ursule Mirouet. Nos auteurs de mots croisés ont su également célébrer le fisc et l'impôt. Vide-poche pour l'un, ponctionnaire zélé pour l'autre, ou encore le délicieux service de presse. On est d'ailleurs bien injuste pour les impôts. Gilles Stern ne déclarait-il pas que rien ne rapproche plus une femme et son mari que l'arrivée de la feuille d'impôt? Dette, un singulier pluriel. Le trésor de la langue française est formel. C'est en 1174 qu'est attesté pour la première fois le dette, D-E-T-E, un masculin donc et un seul T. Mais il faut d'emblée souligner la nature impérialiste de ce vocable né sous le signe du pluriel, issu en effet du latin debita, pluriel de debitum. Il ne démentira jamais son tempérament insatiable. Il s'adjoignit donc d'abord un second T, puis pour bien marquer son obsédante présence, il se déclina une nouvelle fois au pluriel, payait ses dettes, tout en adoptant le féminin adoucissant. Un proverbe ne lui suffira évidemment pas. On en compte au moins trois, martelés par ceux à qui on doit de l'argent. À l'inaltérable qui paie ses dettes s'enrichit, s'ajoute ainsi 100 ans de chagrin, ne paie pas un sou de dette, suivi d'une mise en garde, qui épouse la veuve épouse les dettes. Et Molière, dans l'étourdi, de se joindre au concert donné aux imprudents, en rappelant que l'endettement se fait comme les enfants que l'on conçoit avec joie, sans penser à l'accouchement. L'argent dans une bourse entre agréablement, mais au moment de le rendre, c'est alors que les douleurs commencent à nous prendre. Quant à la dette due par un pays, elle jaillit à travers un bouquet de synonymes, avec au choix la dette publique, nationale, la dette d'État, le tout assorti de fortes citations révélant que le phénomène est ancien. Victor Hugo. À la mort de François Ier, la dette publique était de 30 000 livres de rente. Jean-Baptiste C. La dette de Louis XIV représente le triste résultat de la gloriole militaire du prince. Paul Morand. Le blocus continental imposé par Napoléon tripla la dette nationale. De Gaulle, au moment de la reconstruction. Nos finances sont écrasées d'une dette publique colossale. La seule dette en définitive insupportable reste celle inscrite dans une locution sournoise « payer sa dette à la nature » que nos dictionnaires traduisent sobrement et impitoyablement par « mourir ». Une dette à ne surtout jamais payer de son plein gré.